Marketing, quelle nouvelle route en 2022 ? Selon Wikipédia, le marketing est un ensemble de méthodes et de moyens dont dispose une organisation pour créer, révéler et promouvoir de la valeur pour ses publics cibles en vue de réaliser ses objectifs. On le voit avec cette définition, le sujet est large, les champs de son exécution sont multiples. Et si c'était plutôt simple au siècle dernier d'exercer le métier de marketeur, c'est devenu beaucoup plus complexe aujourd'hui, notamment parce que les publics ont changé, ils sont pluriels, ils changent d'avis en plus en permanence. Les moyens pour toucher ces publics, ils sont de plus en plus nombreux. Et les nouvelles technologies là-dedans, allez-tu de dire, oui, les nouvelles technologies ont changé la donne. La data est devenue un outil incontournable, mais elle demande une sacrée expertise. Et la concurrence est féroce. Et le digital là-dedans? Ah ben le digital. Quant à lui, il a donné de nouvelles opportunités aux as du marketing direct. Il ne jure plus que par le SEO, le Search Engine Optimization, le ciblage comportemental, l'inbound marketing ou encore l'ABM, tu sais, l'account based marketing utilisé par les entreprises les plus à la pointe en business to business. Pour bien comprendre, quelle nouvelle route pour le marketing en 2022 ? On a dans l'invité du podcast, c'est aujourd'hui Laurent Olivier, le directeur associé de l'agence Areci Epoca. Bonjour Laurent.
Bonjour PPC.
Pour attaquer dans le vif du sujet, comment va le marketing en business to business, toi qui es un expert ? Il va comment le marketing en business to business ?
Eh bien, le marketing B2B, il va plutôt bien. On en a toujours plus besoin parce que les entreprises ont toujours besoin et envie d'accélérer sur des marchés. Il y a des mutations et donc elles veulent en profiter. Et donc, il y a besoin de lancer des campagnes et de faire du marketing.
Bonne nouvelle. Voilà, des gens qui sont heureux, qui vont bien. J'aimerais te demander, parce que toi, tu connais vraiment bien le marketing de business to business. C'est un peu ton dada. Enfin, c'est ton dada. Qu'est-ce que tu as comme changement durant les 10 dernières années? Qu'est-ce qui a changé selon toi?
Alors des changements, il y en a tout le temps et régulièrement et à la fois des changements qui sont des opportunités, des changements qui sont plutôt des freins. Alors qu'est-ce qu'on a vu? Je dirais déjà un premier changement qui est même un peu l'acceptabilité de la publicité. Voilà, la publicité était souvent presque un spectacle, hein, on disait il y a quelques temps, et aujourd'hui il y a une vraie défiance. Il y a des taux de clics qui sont en baisse sur beaucoup de campagnes. On voit que aujourd'hui, les gens ont presque une défiance. On n'a pas envie de la voir cette pub. On la zappe. Donc ça, c'est une première transformation. Et puis après, on est passé à des mécaniques dont on appelait le permission marketing, un peu l'idée de l'inbound marketing où on laissait les gens venir à soi-même en leur apportant beaucoup, en étant généreux, en leur délivrant du contenu, du savoir, et puis en essayant de faire en sorte qu'ils téléchargent quelque chose, ce fameux inbound marketing. Et puis néanmoins, là aussi, on s'est rendu compte que il y avait une limite liée à la qualité des leads que l'on pouvait générer, et donc c'est pour ça qu'on est allé vers l'ABM, l'account-based marketing, dont l'objectif est de cibler les campagnes sur un nombre de comptes réduit et identifié. Et puis, on en a d'autres encore, des transformations à venir, hein, tout ce qui est lié à l'usage de la data, au RGPD, aux différents règlements qu'on nous annonce, qui vont encore faire qu'il va falloir se réinventer, se transformer, mais on y arrive, c'est ça qui est passionnant.
Ça a l'air passionnant, et je confirme. Question que je voulais te poser, c'est comment on s'y prend, parce que les champs des possibles sont de plus en plus larges. Il fait comment le spécialiste du marketing en business to business pour finalement choisir les bons outils, la bonne palette, c'est quoi l'astuce? Tu fais comment ton côté?
C'est pour ça que c'est les nouvelles routes, hein, et qu'il n'y a pas une route et qu'il faut surtout pas prendre un livre, écouter quelqu'un et appliquer une méthode telle que. Il faut réfléchir à sa situation, à ses cibles, il faut réfléchir à son panier moyen, à son cycle de vente, il faut réfléchir aussi avec son organisation interne, est-ce qu'on a des commerciaux? Voilà, il faut vraiment prendre tous ces éléments en compte. Donc moi, mon métier numéro un, c'est d'écouter. C'est prendre le temps d'écouter, de qu'on me raconte, de même déplacer, me rencontre dans une usine, dans un service, comment ça se passe. Parce que c'est là, en fait, on se rend compte les spécificités de l'entreprise, de ce qu'elle vend. de ces différences, parce qu'il y a toujours des concurrents. Donc, il faut aller chercher les différences pour trouver la bonne route, qui est effectivement pas la même que son voisin.
Démarrer par l'écoute, la proximité, c'est amener un regard finalement assez neuf sur des choses que les gens connaissent. Je prends la question de Sanjay, il te demande « Le marketing relationnel est-il l'avenir du marketing afin de permettre aux grandes entreprises de reconstruire un lien fort et durable avec leurs consommateurs » dit-il. Qu'est-ce que tu en penses ?
Alors là, pour moi, il y a deux sujets. Marketing relationnel, pour moi, il n'a jamais arrêté. Alors, on aime bien dans le marketing inventer des nouveaux noms et faire du marketing autour du marketing. On appelait ça le marketing direct. Voilà. Aujourd'hui, effectivement, la data permet d'aller encore plus loin et de créer une relation encore plus personnalisée. Donc, bien sûr que le marketing relationnel est un élément clé, alors peut-être plus dans la fidélisation que dans la conquête, je dirais. Et deuxièmement, j'ai entendu consommateur. Alors là, oui, c'est un sujet très aujourd'hui important. Tout ce qui est autour de l'éthique, l'utilisation de la data, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait pas, qu'est-ce qu'on informe les personnes. Voilà, là, c'est des sujets où effectivement, le consommateur peut être aujourd'hui détracteur. Donc, il faut être très vigilant et faire très attention.
Alors, tiens, on ouvre un peu le sujet parce que en entendant ta réponse, Monsieur Pussy posait la question de ces entreprises, plutôt peut-être en business to business, elles changent aussi la façon de travailler entre elles. Tu vois arriver du co-marketing, ce genre d'approche?
Alors oui, c'est pas nouveau et ça a toujours existé dans une logique un peu de distribution. Il y avait un co-marketing entre une marque et son distributeur. Hein, ça existe dans le B2C et bien sûr aussi dans le B2B où il y a souvent une chaîne de distribution importante. On le voit aussi aujourd'hui arriver pour raconter des histoires un peu plus complètes, notamment dans tous ces acteurs du SaaS, on va dire, des éditeurs cloud, qui sont souvent des acteurs très spécialisés, très de niche. Ben, on va chercher à faire en sorte que ils écrivent non pas une histoire sur un pain point très spécifique, mais une histoire un peu plus large, où ils vont englober un ensemble de sujets, de thématiques, et apporter une réponse plus intégrée, un peu plus high level, et non pas sur un détail d'une fonctionnalité. Donc oui, c'est intéressant parce que c'est aussi une manière à l'économie, je dirais, de prendre la parole sur des thématiques diverses et variées. C'est aussi une manière de profiter de l'audience et de partager ses audiences. Donc oui, c'est quelque chose que l'on voit vraiment se développer.
Au marketing entre entreprises, je tire un peu le fil, on passe peut-être un peu au mode collaboration. Bon, en B2C, on voit bien la collaboration que peuvent avoir certaines marques avec des influenceurs. En business to business, il y a aussi ces mêmes approches de travailler avec des influenceurs sur une catégorie ou des experts de ce type-là.
Alors la collaboration, elle peut même être dans l'offre, hein, une nouvelle fois. Et si je reprends les acteurs du SaaS, ils vont créer des API pour relier leurs produits les uns aux autres et leurs solutions les uns une aux autres, et qu'en un clic, il y a une vraie enchaînement solution à l'autre, donc c'est une vraie forme de collaboration, il y a même une forme de partage de revenus, et puis oui, en B2B aussi, on fait intervenir des influenceurs, alors c'est pas des influenceurs comme on peut les imaginer dans le B2C, hein, c'est plutôt des gens très experts qui vont peut-être un peu moins travailler la forme, mais certainement un peu plus le fond, mais on retrouve un peu les mêmes codes, des séquences sur YouTube, assez courte, assez rythmée, mais aussi des séquences plus longues avec un contenu très expert, très documenté. Donc, on retrouve les mêmes leviers avec des codes un peu différents.
J'en profite pour te faire rebondir. J'ai accueilli il y a quelques temps Nicolas Huberman, qui est le patron d'une entreprise qui s'appelle Story for Brands. Il nous a parlé du proof content. C'est cette approche qui vise en fait à travailler son marketing sur la base de choses extrêmement prouvable. C'est une des voies possibles dans ces nouvelles routes du marketing en 2022 ?
Dans une route du marketing, il y a toujours différentes étapes. Il y a une première étape qui est la découverte, le awareness. On va donner envie autour de sa marque. On va créer même un peu cette émotion, hein, parce que aussi en B2B, on essaye de donner envie et de faire agir grâce à l'émotion. Et après, on va passer à une étape qui est de toute manière la démonstration en quoi on est bon, la démonstration en quoi on est meilleur que ses concurrents. Hein, il faut bien travailler les deux éléments parce qu'il y a toujours des concurrents. Et donc, ça passe obligatoirement par des preuves, des preuves chiffrées, des études. Et aujourd'hui, c'est d'autant plus important que les gens, ils peuvent aller tout vérifier sur Internet. Il y a des communautés sur plein de thématiques. Donc oui, travailler la preuve, s'assurer qu'on va avoir des personnes qui partagent ce point de vue et qui voilà, qui le relaient, c'est important, c'est clair.
Et à cette ère de la data, on en parlait tout à l'heure, il y a une place pour l'open data justement dans ces sujets de marketing en business to business?
Alors oui, et même on l'utilise sur des sujets dont on n'a pas parlé, qui sont entre l'inbound et l'ABM. Pour moi, c'est un peu tout ce qui est growth hacking, growth marketing. Et donc là, souvent, on va associer de la techno et donc de la data à des mécaniques d'activation digitale. On va s'appuyer sur l'open data qui sont pertinentes par rapport aux cibles que l'on souhaite viser. Mais oui, parce que ça permet de rajouter une couche de personnalisation, une couche de pertinence lorsqu'on adresse les cibles. Ça évite de écrire à des gens qui sont pas pertinents. Et donc, oui, plus on a de la data, plus on l'utilise avec intelligence, plus on écrit au bon moment, avec le bon message, à la bonne personne.
Donc, on revient aux fondamentaux, finalement, du marketing direct, le message de la bonne personne au bon moment.
Et tu as totalement raison. Les nouvelles routes du marketing, comme j'ai dit au début, il y a beaucoup de transformations. Voilà. Mais finalement, les fondamentaux restent les mêmes. On parle même en B2B à des humains à qui donc il faut parler de leurs problèmes avant de parler d'eux-mêmes. Il faut leur donner envie. Donc, il faut travailler aussi cette couche émotionnelle. Et puis, il faut à un moment trouver l'élément déclencheur qui va les faire agir. Nous, chez RSI, on dit que le B2B, c'est pas que business to business, c'est brand to business, parce que c'est cette idée, justement, travailler votre marque, ne soyez pas trop agressif, laissez du temps au temps pour que les gens aient envie de vous écouter. Parce que parfois, nous, on a des clients, ils veulent parler, mais je dis, d'abord, il faut qu'on crée les conditions qu'ils aient envie de vous écouter. Parce que de toute manière, ça sert à rien de parler fort si les gens, ils n'ont pas envie de vous entendre.
J'aime beaucoup Brand to Business, c'est bien vu ça, bravo. Dans la question de Jean-Emmanuel, il te demande quel changement apporte le RSE, la responsabilité sociale des entreprises, au marketing?
Plusieurs changements. Hein. Déjà, c'est une thématique que l'on aborde dans nos campagnes parce qu'on sait que les clients de nos clients, c'est un sujet important qui est dans les appels d'offres aujourd'hui. Ça fait partie des critères qui sont importants, avec des notes importantes premièrement. Et puis nous-mêmes, c'est des nouveaux comportements, des nouvelles décisions. Nous, on a au sein de RSI Epoca tout un groupe, on va dire, qui accompagne tous les managers dans la transformation des campagnes qu'ils mettent en place, et faire des visuels ou on va faire attention au taux d'occupation de l'encre quand on imprime, des pixels blancs ou noirs en digital. On va faire attention où on héberge des données, la qualité du code aussi. Et puis nous, on a une équipe de création qui aime bien aussi mettre en avant des photographes français, des typographes qui sont aussi français. Voilà, d'avoir une démarche aussi de proximité par rapport à tout un tas de talent créatif, pour faire en sorte que, on aille peut-être chercher moins loin des choses qui existent toutes proches, voilà. Et puis c'est aussi un ton dans l'écriture, justement avoir cette certaine éthique, de dire, parce que faire du marketing, c'est aussi séduire, donc c'est parfois aller un peu loin dans la promesse, voilà, mais faire attention, être respectueux, de pas être dans la surpromesse, d'être le juste ton.
Le RSE, c'est pas que de la façade, hein, tu nous l'as dit, c'est vraiment dans toute la chaîne de valeur, on porte attention à faire ça en respectant un certain nombre de sujets liés à la responsabilité sociale des entreprises. J'ai une question d'Isabelle. Elle te demande, est-ce que selon toi, en 2022, la route du marketing se fera enfin à deux, main dans la main, avec le commerce? Qu'est-ce que tu penses de ça?
Eh ben, c'est effectivement là aussi une transformation forte que l'on a vue ces derniers mois et qui, je dirais les technologies, les outils de collaboration, le partage d'informations aussi est aujourd'hui tellement plus simple et peut être fait en temps réel. Donc oui, bien sûr, on travaille main dans la main. Après, néanmoins, chacun a ses qualités et chacun a son rôle, hein, dans une chaîne de valeur là encore. Ce que je pense est différent, c'est que on va démarrer, on est certainement en étant plus aligné sur qu'est-ce que l'on va faire, sur quelle cible, etc. Après, les commerciaux repartent faire du commercial et les marketeurs partent faire du marketing. Et puis, il y a des points de contact qui sont effectivement maintenant beaucoup plus permanents. Et puis, là encore, il y a tout un tas d'outils qui permettent vraiment de collaborer en temps réel. Après, je dis pas qu'on va faire les campagnes ensemble, je dis pas qu'on va les prospecter ensemble. Non, je pense que chacun dans son territoire, mais effectivement, on est certain d'être aligné au départ et d'avoir des points de contact réguliers qui permettent de vérifier si on avance dans la bonne direction.
Ouais, donc en fait, c'est pas une fusion, hein, comme peut-être que pourrait le penser Vincent qui nous met ce commentaire en 2021-2022, le marketing fusionne enfin avec le commerce. C'est plutôt une sorte de rapprochement. C'est lié à l'ABM, c'est le bon exemple pour montrer évidemment ce travail fait en commun entre marketing et commerciaux, chacun dans son rôle, mais tous ensemble et synchronisés. C'est le bon exemple, l'ABM, pour ça?
Tout à fait, et c'est même la première étape souvent de l'ABM, c'est de se poser la question sur les comptes. Donc c'est du marketing basé sur les comptes et donc il faut commencer par collaborer ensemble pour être bien d'accord sur les comptes que l'on va adresser. Et là, souvent, il y a même des différences d'approche. Les commerciaux vont être peut-être plus par rapport à un référentiel, un historique, des contacts qu'ils ont déjà engagés, ou le marketing, on va plutôt faire des listes avec des critères très objectifs de chiffre d'affaires, de potentiel, d'équipement précédent, voilà. Et bah, c'est ça qui est intéressant, parce que là, on est sûr qu'on part sur de bonnes bases, parce que tout le monde est d'accord finalement à la fin, on s'est mis d'accord sur la liste, et on part... à la conquête. Alors pour la petite histoire, hein, nous quand on est souvent en réunion et qu'on pose un peu cette question, le marketing répond très vite. Oh là là, mais ça va être très facile et on s'en occupe, etc. Et puis parfois ça peut durer des semaines, des mois. Donc on voit bien que c'est un point très important, voire de friction, parce que il y a des points de vue différents. Mais c'est important donc finalement de passer ce temps à se mettre d'accord. Parce que c'est sûr que bah, si on part en étant de toute manière divergent sur les objectifs, bah, c'est sûr qu'on n'arrivera pas au même endroit et on ne sera pas content ensemble.
Il y a une question, la question que j'aimerais te poser. On va parler
avec plaisir.
Peu de sous, de pépettes, de pèses, voilà, ouais. De budget en fait. C'est-à-dire que, bah, c'est-à-dire que les budgets marketing sont souvent plutôt des budgets d'investissement. Hein. On ne parle pas de dépenses publicitaires, on parle d'investissement. Les budgets commerciaux sont peut-être moindres. Quand ils travaillent les uns et les autres ensemble, généralement, ça se passe comment? Il y a un partage de budget, c'est des budgets qui vont à la baisse. Raconte-nous un tout petit peu, sans donner de nom, comment ça se passe d'un point de vue budgétaire?
Alors, les budgets, ils sont toujours côté marketing, hein, parce que c'est quand même de l'ABM, de l'account-based marketing. Donc, c'est quand même d'abord du marketing. Ce qu'on a besoin côté commerciaux, c'est plutôt qu'ils réorganisent bien leur temps pour passer... un peu plus de focus sur ces fameux comptes stratégiques. On a besoin peut-être un peu d'outils aussi chez les commerciaux, notamment, je pense, à une bonne utilisation de LinkedIn, tout ce qu'ils peuvent faire autour du social. Hein. On en a parlé de nombreuses fois sur cet épisode. Mais sinon, les budgets sont clairement côté marketing. Les commerciaux ont très peu de budget, éventuellement pour faire des incentives, peut-être porter le CRM, mais encore, souvent, il est rangé côté marketing.
Donc, il y en a un qui paye et l'autre qui paye de sa personne, si j'ai bien compris.
C'est pas mal.
Finalement,
pas mal,
en donnant du temps. C'est bon, ça, j'ai compris. Génial. Mille merci à toi, Laurent, d'être passé ce matin. Merci beaucoup.
Merci à toi, merci à tout le monde.
Merci aussi à toi d'avoir écouté cet épisode du podcast, pour avoir participé. Toi qui l'écoutes sur les plateformes de balado diffusion, tu as des choses à faire. Il faut que tu payes de ta personne. Va donc donner 5 étoiles à commentaire sur Spotify ou Apple Podcast. Tu verras, ça va faire un bien fou à notre algorithme et ça va permettre de faire connaître ce podcast à plus de monde. Donc, on compte sur toi pour les étoiles. La piste aux étoiles, c'est parti. Et demain matin, j'aurai le grand plaisir de t'accueillir en direct d'Annecy. On sera à Annecy. C'est les sommets du digital. Enfin, les sommets maintenant, ça s'appelle les sommets qui commencent ce matin. On fera un débrief demain matin, je serai en direct avec mon compère David Abiker, avec lequel j'ai le plaisir d'animer ces 3 jours de conférence. Bref, sois branché, 7h30, en direct, viens nous poser tes questions, viens jouer avec nous, on sera là avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien et surtout, ne lâchez rien.